Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Cela fait presque 10 ans maintenant que le système financier mondial a été frappé par la grande crise de 2008. Presque une décennie pendant laquelle le monde et en particulier l'Europe ont tenté de bâtir les structures bancaires notamment et les systèmes de sauvegarde pour éviter qu'une telle crise se reproduise. C'est l'objet d'un forum aujourd'hui à Bruxelles ouvert par le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi en personne. Un forum sur la régulation bancaire. Alors que les bourses mondiales et notamment américaines vont de record en record ces dernières semaines, alors que la reprise semble se confirmer, le monde de la finance est-il à l'abri d'une nouvelle crise? C'est la question du jour. Et pour tenter d'y répondre, deux invités nous ont rejoints en studio. Christian de Boissieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et Thierry Philippona, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et directeur de l'Institut Friedland, qui est un centre de réflexion économique de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. On parlait à l'instant de Mario Draghi. Il y a une quinzaine de jours, il annonçait la réduction prochaine de la politique de la Banque Centrale Européenne de soutien à l'économie via la diminution du rachat d'actifs. Ça veut dire que tout ça, la crise financière, la croissance molle, c'est derrière nous, Christian de Boissieu ?
Moi, je pense que la crise n'est pas finie. Les choses vont mieux. Hein. Bon, alors, la Réserve fédérale américaine qui va avoir un nouveau patron,
oui.
Dans quelques semaines, la Réserve fédérale a commencé à resserrer sa politique monétaire compte tenu de la reprise aux États-Unis. Et de la remontée très lente hein, du taux d'inflation. L'inflation est basse dans les pays avancés, sauf en Grande-Bretagne, où elle est à 3% à cause de la baisse de la chute de la livre sterling. Mais je reviens sur votre question. Nous sommes dans un contexte de reprise, de politique monétaire, à mon avis, pragmatique. Et vous parliez de Mario Draghi. Moi, je trouve que la politique de la BCE... depuis le début de la crise, depuis 2007, a été plutôt bonne, un peu lente à se mettre en route certainement, mais depuis 2014 en tout cas je la trouve très bonne. Alors on resserre très progressivement les boulons, très progressivement, il ne s'agit pas de casser la baraque. Hein. Et je disais la crise n'est pas finie, en sens à mon avis que le chômage dans beaucoup de pays, et pas uniquement en France, est encore élevé. Il y a des pays qui sont proches du plein emploi, les États-Unis, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, mais la France, l'Espagne, l'Italie, pour ne citer que, sont très très loin du plein emploi. Le chômage, en général, le chômage des jeunes, en particulier, sont élevés. Donc, moi, je considère aussi que pas mal de nos banques sont encore fragiles et portent les stigmates de la crise qui a été ouverte en 2007. Alors, on va en parler sans doute. Dernier point, on a essayé de colmater les brèches depuis 2007, depuis le début de la crise mondiale. Mais au fond, on sait traiter les crises du passé, on ne sait pas bien anticiper les crises du futur.
Thierry Philippona, vous êtes d'accord avec ce diagnostic ? Il y a du mieux, mais on n'est pas à l'abri de surprises.
Je suis très largement d'accord. Après ça, on peut prendre la question aussi d'un angle très légèrement différent. Votre question de base, c'est de savoir si la crise, une nouvelle crise, est possible. Je pense qu'on pourrait poser la question de façon très légèrement différente, en mettant en contexte. Des crises financières, il y en a toujours eu, et j'ai envie de dire, il y en a toujours. Donc, il y en aura toujours. Donc, si je veux répondre à votre question...
On est toujours entre deux crises.
Oui, on est toujours entre deux crises. Mais ça, il suffit de regarder l'histoire économique, on le sait. Donc, la question est moins de savoir s'il va y avoir une nouvelle crise financière. Moi, je suis pas gourou. Mmh. Je sais pas si ça sera demain ou dans 10 ans, mais oui, il y en aura une nouvelle.
Mais d'où
la question, c'est savoir... Et surtout, j'ai envie de dire, de savoir si le phénomène qu'on a vu il y a presque 10 ans maintenant, c'est-à-dire... J'exagère un tout petit peu, mais à peine, d'effondrement de l'ensemble du système et d'impact considérable sur la société. Un seul chiffre, 50 millions de chômeurs dans le monde du fait de la crise financière, se reproduira. Donc le sujet, c'est moins de savoir s'il y aura une nouvelle crise financière que de savoir si les mesures, notamment de réglementation financière et d'intervention des banques centrales que l'on a vues depuis 10 ans... permettront d'éviter la prochaine fois où il y a une crise financière que l'impact sur la société et sur l'économie soit aussi important.
L'économie...
Donc c'est ça la question. Donc peut-être qu'on pourrait regarder et essayer d'aborder cette question.
L'économie réelle. Alors oui, donc aujourd'hui, vous en parliez à l'instant, il y a ce forum à Bruxelles sur la régulation bancaire, les ministres des Finances de la zone euro qui discutent de la suite à donner à l'union bancaire. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis quelques années. Est-ce que ça veut dire quand même que c'est un sujet qui est toujours surveiller de près, Christian de Boissieu, la structuration des banques?
On surveille de près, mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on colmate les brèches. qui sont apparus depuis 2007, 2008, depuis l'éclatement de la crise. Par définition, je dirais, la crise, elle viendra de là où on l'attend pas. Parce que si on arrivait à anticiper exactement d'où elle viendrait, on prendrait aujourd'hui des dispositions pour éviter qu'elle intervienne. Un peu. Mais donc, je vous dis des domaines qui m'inquiètent aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si la crise viendra de là. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la présence de ce qu'on appelle la finance parallèle, en anglais le shadow banking, c'est-à-dire il y a toute une partie de la finance, une sorte de trou noir de la finance mondiale, qu'on essaye de réguler. Nous, en Europe, on essaye de réguler une partie de ce shadow banking. C'est pas la banque de Londres, ce qui veut rien dire en français, c'est la finance parallèle. Et par exemple, je suis aujourd'hui inquiet de ce qui se passe dans le shadow banking, dans la finance parallèle en Chine. Ça se développe très vite, ça a financé une partie de la bulle immobilière en Chine, et donc je n'exclus pas, même si je suis comme Thierry Philippona, je suis pas Madame Soleil, je n'exclus pas que des secousses qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire, ça veut dire qui concernent l'ensemble du système et qui sont importantes, proviennent du shadow banking en Chine. Deuxième élément que je regarde aujourd'hui quand je me projette dans l'avenir, vous l'avez dit vous-même dans votre intro, il y a des marchés aujourd'hui qui paraissent relativement chers. Alors, est-ce que c'est une bulle ou pas une bulle ? Moi, aujourd'hui, je suis plus inquiet sur l'abondance de liquidités et d'investissements qui ont été faits depuis quelques années sur le marché obligataire ou les marchés des obligations, en particulier souveraines, la dette américaine, la dette française, etc., avec des taux d'intérêt très bas. Les deux sont liés, c'est-à-dire les taux d'intérêt très bas, c'est la conséquence de l'abondance de liquidités qui sont porties sur ce marché. Je suis presque plus inquiet d'un possible crack dans les deux ans qui viennent sur les marchés obligataires, avec peut-être comme point de départ les États-Unis, que sur les marchés d'actions. Les marchés d'actions, Wall Street est cher, vous l'avez dit en intro. Bon, la croissance est là, les politiques monétaires sont toujours quand même accommodantes, et les entreprises font des profits globalement, j'allais dire, sympathiques pour elles, pour ces entreprises. Donc, voilà, on voit bien des points qu'il faut regarder. En même temps, je répète, probablement la crise viendra pas de là.
Thierry Philippona, vous l'avez dit, on a bien compris, vous n'êtes pas ni devin ni gourou, mais est-ce que vous voyez des zones de danger potentielles dans la finance mondiale aujourd'hui?
Oui, alors il y a
la Chine.
Les zones de danger, enfin il y en a plusieurs. Il y a celle qu'évoquait Christian de Boissieu à raison de la Chine. Sur le sujet de la Chine, je raisonne tout haut, je prétends pas avoir raison, mais je mettrais peut-être un bémol, non pas qu'il y ait un vrai sujet chinois, et je partage totalement l'avis de Christian de Boissieu là-dessus, mais il me semble que la possibilité d'une contagion au reste du monde serait probablement plus limitée, parce que le système bancaire chinois est peu connecté au reste du monde. Mmh. Et une crise mondiale, c'est quelque chose qui s'effondre et puis quelque chose qui est connecté. Mmh. Oui, quand Lehman Brothers s'effondre il y a 9 ans de ça, Lehman Brothers avait 2 millions de contrats de produits dérivés en position. Ça veut dire qu'il y avait 2 millions de transactions qu'il fallait dénouer, donc la contagion était immédiate. Bon, donc ça, c'est une chose. La deuxième zone de risque, c'est évidemment également ce qu'évoquait Christian de Boissieu. On a eu cette création de liquidités, d'argent phénoménal par les banques centrales. Le bilan de la Banque centrale américaine a été multiplié par 6 en l'espace de 15 ans, celui de la Banque centrale européenne par 4 en l'espace de 15 ans. Voilà. Donc ça, pourquoi est-ce que les banques centrales ont fait ça ? Fondamentalement pour sauver le système financier. Donc, et là, on voit qu'on a un paradoxe qui est intéressant de prendre en compte et de comprendre, c'est que les banques centrales ont joué les pompiers en injectant des liquidités pour que le système reste à flot, et en même temps, en faisant ça, elles ont gonflé le prix des actifs financiers, oui. Parce qu'il faut bien que l'argent aille quelque part, c'est tout bête. Et ce faisant, elles ont créé une bulle, on peut le dire, d'accord, d'actifs qui sont surévalués par rapport, on va dire, à leur juste valeur. Et là, elle prépare quelque part, potentiellement, une prochaine crise. Donc on voit que l'action du pompier a certes calmé le jeu pendant longtemps, et ils ont eu raison de le faire. Il fallait le faire pour que tout ne s'écroule pas. Mais en même temps, ils ont mis en place les conditions d'une prochaine crise possible.
Christian de Boissieu.
Ça veut dire que c'est difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que je pense que les banques centrales, par leur réactivité, nous ont évité une déflation mondiale. Nous ne sommes pas en 1931-32. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que la déflation que celle que nous avons connue. Moi, je ne l'ai pas connue, mais enfin, on la connaît par les livres d'histoire dans les années 1930. Mais effectivement, quand je dis on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'il y a un prix à payer derrière le fait qu'on a évité la déflation.
Ça se paye en dette.
C'est qu'on passe d'une bulle à l'autre. Mmh. Et deuxième remarque, par rapport au problème de réglementation, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a beaucoup de mal à trouver le bon équilibre entre deux objectifs. D'un côté, il faut bien sûr sécuriser le système financier. On a beaucoup renforcé les règles applicables aux banques. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on a durci à juste titre la réglementation sur les banques. Bon, dans le même temps, il faut pas que la réglementation bancaire et financière nuise au bon financement de l'économie réelle. La question du financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire et aussi des toutes petites entreprises, c'est une question qui se pose dans tous les pays. Ça se pose en France, ça se pose quand je vais au Maroc, ça se pose au Maroc. Quand je vais en Afrique subsaharienne, le tissu PME doit être aussi soigné du point de vue des financements. Et c'est une question qui me préoccupe aujourd'hui.
Thierry Philippona, on parlait à l'instant de la régulation bancaire. Il y a eu le mécanisme de supervision unique mis en place en Europe depuis la fin 2014. Les banques sont surveillées sous l'autorité de la BCE. Il y a le mécanisme de résolution unique qui est un petit peu sous-financé, d'après ce que j'ai compris. On a prévu que ce soit 55 milliards d'euros. Il y en a 17 qui sont en caisse pour éviter de faire appel aux contribuables. On est en retard là-dessus, apparemment. Et puis, il y a la garantie des dépôts. C'est le troisième pilier de l'union bancaire. C'est 100 000 euros, en principe. C'est l'objectif. Ça, c'est pas fait. Est-ce que les épargnants seront les grands oubliés de la prochaine crise ?
Non, les épargnants ne seront pas plus qu'avant les oubliés de la grande crise. Mais la question, c'est effectivement, derrière ces mécanismes de supervision unique, de résolution, la question, c'est de savoir qui prend les pertes quand il y a des pertes bancaires. Mmh. On sait que le plus gros problème de la dernière crise financière, alors je ne vais pas sur les causes, mais sur les conséquences, c'est que là où les profits bancaires étaient privatisés, ce qui est normal, ce sont des acteurs privés. Les pertes extrêmes ont été socialisées, elles ont été portées par les États. Donc la question,
ce sont les contribuables qui ont payé.
Ce sont les contribuables qui ont payé. Dans une certaine mesure, il faudrait raffiner, etc. Mmh. Mais enfin, il y a eu un appel au budget public. Les pays de l'Union européenne mis tous ensemble ont contribué à hauteur de l'ordre de 400 milliards au sauvetage du système bancaire. Donc la question, c'est est-ce que tous les mécanismes que vous avez évoqués suffiront ou suffiraient en cas d'une crise équivalente pour éviter la répétition de cet appel au budget public ?
Et votre avis ?
Mon avis, c'est que si on a une crise moyenne, faible, contrôlable, les mesures qui ont été prises, qui ont beaucoup de sens, permettront de gérer. Dans le cadre d'une crise majeure, je n'en suis pas convaincu. On a un problème en Europe qui est un problème politique. On l'a vu récemment, à l'été dernier, quand on a eu deux banques, deux petites banques
italiennes,
qui étaient à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Le contribuable italien a mis la main à la poche à hauteur de 17 milliards d'euros. En théorie, ça ne devait pas se produire. Une des grandes failles du système de résolution, c'est-à-dire de possibilité d'intervention des autorités européennes pour éviter qu'une banque fasse faillite, c'est pas tant les mécanismes qui ont été prévus, qui, pour faire simple, sont cohérents et bons, mais le système politique qui va avec. C'est-à-dire qu'un bon système de résolution doit être, je sais que c'est pas la mode de dire ça, mais purement technocratique et pas politique, parce qu'il est dans la nature des choses que les politiques, devant une faillite bancaire, vont toujours dire « bah moi, je veux sauver mes banques pour des raisons X, Y, Z ». Donc un système qui va protéger le contribuable doit être, quelque part, isolé de la décision politique au dernier moment.
Ça doit être mutualisé aussi, ça c'est une question que les Allemands mettent beaucoup en avance, hein. Christian de Boissieu, oui.
C'est-à-dire que la politique retrouve ses droits dans le fait que si on n'a pas avancé sur une garantie des dépôts au niveau européen, C'est parce que les Allemands veulent, ils sont pas les seuls, mais ils veulent pas. Les Néerlandais, ils veulent pas. Les Allemands, ils ont l'impression d'avoir déjà payé à travers leur unification, et donc ils sont très méfiants devant toute mutualisation. Je dis pas qu'ils aient raison, mais je dis, on a une union bancaire en Europe qui est incomplète, et je crains qu'elle reste pendant encore un certain temps ou un temps certain, incomplète.
Pour vous, de ce point de vue-là, on est sur un projet édulcoré, donc risqué. On n'est pas suffisamment armé de ce point de vue-là.
On a fait des progrès, mais regardez l'autre volet aussi qui s'appelle l'Union des marchés de capitaux, qui a été lancé avant le Brexit. On a à mettre en œuvre ce projet aujourd'hui dans la perspective du Brexit, c'est-à-dire sans la place de Londres. Ça va tout changer. Et si je me permets de dire un dernier point, y a derrière tout ce qu'on dit, il y a aussi la question des nouvelles formes de la finance et de la monnaie. Blockchain, ce qu'on appelle la blockchain, les crypto-monnaies.
Le Bitcoin
en particulier, mais c'est pas le seul. Tout ça, c'est... Je veux dire, il faut à la fois laisser vivre l'innovation, en même temps, on peut pas laisser faire n'importe quoi. Et donc, il y a cet équilibre à trouver entre laisser respirer le système et, d'autre côté, éviter des crises systémiques qui pourraient venir, justement, de problèmes venant de ces fintech, de ces innovations qui arrivent tous les jours et qui se développent à grande vitesse.
Thierry Philippotin, Christian de Boissieu l'évoquait à l'instant. Est-ce qu'il n'y a pas un contexte qui est défavorable au contrôle et à la régulation? Donald Trump aux États-Unis va lancer une sorte de dérégulation bancaire. Il va y avoir une concurrence accrue en Europe à la suite du Brexit. Est-ce que justement, voilà, on va pas vers de la dérégulation?
Alors, il y a de la rhétorique qui va dans ce sens-là. La pratique, j'en suis beaucoup moins convaincu. Aux États-Unis, bon, certes, on connaît les discours de Donald Trump. La mise en œuvre effective, je demande encore à voir. Il vient, entre guillemets, à peine de nommer les nouveaux responsables de ces questions aux États-Unis. Donnons-leur le temps de mettre en œuvre. Au niveau du Brexit... il y a également une rhétorique anti-régulation au Royaume-Uni, mais deux choses sont fondamentales à voir sur ce point-là. D'abord, la régulation européenne, souvent décriée dans le débat politique britannique, est largement le fait de l'action des Britanniques depuis longtemps. Donc, il y a un petit paradoxe. Et d'autre part, les Britanniques veulent continuer à accéder au marché unique européen des services financiers, pour des raisons bien évidentes. Ça leur rapporte 30 milliards de sterling par an. Donc, on comprend pourquoi. Mais ça supposera de suivre la régulation financière européenne. Donc il y a un paradoxe à dire je vais déréguler et je veux accéder au marché financier européen. C'est juste pas compatible. Donc il faudra
Christian
qu'ils
choisissent. Debattu, vous voulez
je dire. Sens aujourd'hui moins d'appétit pour la coopération internationale que ce qu'on avait au cœur de la crise après la faillite de Lehman Brothers. Et au fond, le fait que...
On est choses... chacun pour soi, c'est ça que vous êtes en train de dire.
Le fait que les choses aillent un peu mieux, de manière, je ne sais pas s'il faut dire paradoxale ou pas paradoxale, ça réduit l'appétit pour la coopération internationale. Et même si je ne sais pas ce que M. Trump va décider concrètement, c'est vrai qu'il a été très agressif dans ses premiers discours.
Oui, ça, c'est...
Il a été très agressif. Bon,
ça marque de fabrique.
Sémantique. Mais même s'il n'applique pas ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire cette déréglementation un peu sauvage, paradoxe, le pays qui est à l'origine de la crise de 2007 nous annonce aujourd'hui qu'il veut déréglementer. Mmh. Quel paradoxe pour nous. Nous, Européens, Africains, etc., on a été quand même on a été les spectateurs et les acteurs de cette crise sans être les auteurs de la crise. Et donc je dis simplement que je sens beaucoup moins d'esprit coopératif que au cœur de la crise en 2008-2009 quand le G20 avait fait en quelque sorte des propositions assez concrètes qui ont été plus ou moins suivies des faits. Et moi je voudrais pas que le fait de sortir la tête de l'eau progressivement nous fasse perdre en quelque sorte cet appétit pour la coopération internationale. On a besoin sur tous les sujets monétaires, bancaires et financiers, je pense qu'on a besoin aujourd'hui de plus de coopération internationale et pas de moins de coopération.
Thierry Philippona, le mot de la fin, il vous reste 15 secondes, qu'est-ce que vous voulez y ajouter? Non? Ça y est, c'est fini. Très bien. Bah écoutez, je crois qu'on a pas du tout épuisé le sujet. Et évidemment, on n'épuisera jamais ce genre de sujet. Merci à vous, Christian de Boissieu et Thierry Philippona, d'avoir participé à cette émission. Merci à Florence Ponce qui vous a fait venir. Merci à Valentin Vaner qui était à la réalisation. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.